Session de théologie du Père Philippe à Saint-Jodard le 12 août 88, conférence du soir.
Il y en avait un ou l'autre que, sitôt la conférence, ils me préviennent. Parce que j'aime pas te laisser comme ça. Comme demain matin, je dois partir à la première heure pour Rimont et nous préparer au 14. Pour l'ordination, vous prierez pour ça, pour que le 15, les jeunes pères puissent dire leur messe encore dans l'année mariale. Sitôt cette petite conférence, qui sera peut-être plus courte que d'habitude, je dis, je ne sais pas, j'en sais rien, vous non plus. Si elle est courte, vous serez très content parce qu'elle sera courte. Si elle est longue, vous serez très content parce qu'elle sera longue. Alors, je ne m'inquiète pas beaucoup. Et c'est très difficile de savoir d'avance, parce que quand même, on demande à l'Esprit Saint d'être là. Alors, donc, sitôt la petite conférence qu'on a maintenant, nous nous réunissons un petit moment ensemble. Pour se dire au revoir. Il y aura quelques frères qui seront là présents, pas toute la communauté, mais quelques frères qui seront présents. Et puis entre nous, je sais bien que vous êtes déjà bien vus au moment des carrefours, mais ce sera peut-être un carrefour, un super carrefour si vous voulez. Alors à ce moment-là, toutes les questions étant posées, vous n'aurez plus qu'à contempler. Et vous communiquerez le fruit de votre contemplation. Alors, je vais essayer de répondre tout de suite aux quelques questions posées encore. Oui, je ne comprends pas bien le sens de la déchirure du voile du temple à la mort du Christ. C'est un geste. Ça demande une interprétation. Je crois que c'est pour montrer la fin d'une alliance et pour faire comprendre que le véritable saint des saints, c'est Jésus. Et le voile brisé est semblable à les blessures du cœur. Ce fameux passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Encore maintenant, tu vois, parmi les théologiens, il y a pas mal de diversité. Et je comprends très bien, c'est très difficile. Étant donné que tout demeure toujours dans un sens assez symbolique. Que veut dire exactement quand Jésus dit qu'il vient achever, accomplir? Est-ce que c'est supprimé? Est-ce que l'ancienne alliance demeure? Ou que l'ancienne alliance est terminée? Est-ce que le Shabbat est remplacé par le dimanche, la résurrection? Ou est-ce que ça a encore un sens de continuer le Shabbat? Jésus nous dit, pas un iota de la loi ne disparaît, c'est la loi. Saint Thomas est très net, comme les théologiens du Moyen-Âge, est très net pour voir que la loi continue, ce sont des préceptes qui continuent, tout est repris dans le point de vue de l'amour, aimer Dieu et aimer le prochain. Mais les préceptes demeurent. Du moins, la loi demeure. Mais les préceptes liturgiques sont totalement remplacés. Ça, c'est la vision de saint Thomas. Aujourd'hui, il y a des points de vue un peu différents. Certains très intéressant de faire une session là-dessus. Il y a beaucoup de sujets, c'est très intéressant. Qui serait très délicate, mais il faudrait presque la faire à deux. Il faudrait la faire avec un Israélite convaincu qui est persuadé que le Christ n'est pas le Messie. J'avais à Paris, comme tout bon dominicain, avant le concile, un petit groupe de réformés et de catholiques. Des réformés très bien, tous fils de Beuner. Le pasteur Beuner était une très grande figure. Très grande. J'ai un tout petit peu connu. C'était vraiment une figure très digne et très, très belle. Et tous ces protestants étaient des fils spirituels de Beuner. C'était très bien. Il y avait leurs amis catholiques qui étaient aussi très bien, mais beaucoup moins instruits au point de vue de la Bible. Comme ce n'était pas encore codifié, j'étais le seul. Il n'y avait pas de pasteur. Et on avait dit, on essaiera toujours d'être positif et pas négatif. C'est-à-dire de voir ce qu'il y a de commun et de positif entre nous. Pour aller plus loin, pour prier plus. Puis un beau jour, on a invité des rabbins. D'un commun accord, on était tout à fait d'accord. Et des rabbins très, très bien, très. Je me souviens, Eisenberg, quand il est venu, c'était un de ceux qui sont venus. Il m'a dit : c'est la première fois de ma vie que je parle devant des chrétiens. Il était très intimidé. J'étais à côté de lui. Et on l'invitait pour lui demander comment il lisait la Bible, sa lecture de la Bible. Bien beau jour, les protestants, qui avaient beaucoup plus d'audace que les catholiques, en face de lui, beaucoup plus d'audace au point de vue interrogation, et en même temps beaucoup plus dépendant. C'est très curieux. Parce que c'est toujours ce qu'il disait, ce sont les fils aînés. Et les fils aînés par rapport à la parole. Alors un jour, ils ont posé la question par rapport au Christ. Alors je vois encore Eisenberg, il s'est retourné vers moi. Et puis il m'a dit, mon père, permettez-moi de ne pas répondre. Je lui ai dit, mais c'est bien évident que je vous permets de ne pas répondre. Permettez-moi de ne pas répondre, parce que si je réponds, je ferai du mal à mes frères chrétiens. Et je ne veux pas leur faire du mal. Alors, je lui ai demandé après. Il m'a dit, oui, vous comprenez, si je réponds selon ma conscience, je suis bien obligé de dire que les chrétiens, par rapport à nous, c'est une déviation, une secte qui a réussi et qui a permis, et je le reconnais, qui a permis que la parole de Dieu soit portée au monde entier. Si nous étions nous seuls, on n'aurait pas porté la parole de Dieu au monde entier. On ne pouvait pas. Tandis que les chrétiens ont porté la parole de Dieu au monde entier. Mais je ne peux pas aller plus loin. Je me souviens, moi ça m'a beaucoup intéressé, tu vois, personnellement, parce que Eisenberg est un esprit extrêmement intelligent et grand croyant. N'hésitez pas de dire le grand danger pour le croyant juif, c'est de réussir. Les juifs, quand ils réussissent, sont insupportables. Et les juifs, quand ils pâtissent, sont merveilleux. J'ai trouvé ça très beau. Et c'est un peu vrai. Lui le disait avec beaucoup de vérité, simplicité, avec une foi très, très, très d'Israël. Bon, c'est pour ça que la déchirure du voile du temple, vous comprenez bien comment il faut l'interpréter. On a posé la question, forcément, à Heisenberg. Il n'y a plus de grand prêtre. Il n'y a plus de temple. Est-ce qu'Israël croit ce que les Juifs pensent? Est-ce qu'il faut le reconstruire? Alors, immédiatement, il a dit non. Le vrai temple, c'est Israël. Spirituel. La recréation se fait par la blessure du cœur de l'agneau. Donc, elle se fait par tout le mystère de la croix et d'une manière ultime par la blessure du cœur de l'agneau. Vous comprenez bien. La blessure du cœur de l'agneau est ultime. C'est l'accomplissement, c'est l'achèvement de tout. C'est évident que la recréation, c'est l'offrande que Jésus fait de lui-même à la croix. C'est donc l'offrande intérieure. C'est le sacrifice de la croix, vécu dans l'amour. Et c'est cela qui est éternel, donc qui est actuellement présent. Et le mystère de l'Eucharistie nous montre que ce sacrifice de la croix, donc l'offrande que Jésus fait de lui-même, est toujours actuelle, selon un mode symbolique et en même temps réel, les sacrements. Puisque l'Église précise que l'Eucharistie, que la messe, est un vrai sacrifice. C'est le sacrifice de la croix qui nous est donné. Et dans un regard de croyant, substantiellement, la croix et l'Eucharistie, c'est le même mystère, selon deux modalités différentes. Assister à la messe, c'est assister à la croix. C'est le mystère de la croix qui nous est donné. Donc, le mystère de la recréation, vous comprenez, qui se réalise une fois pour toutes à la croix. À Pax, comme dirait l'Épître aux Hébreux, une fois pour toutes, continue de se réaliser pour nous à travers le mystère de l'Eucharistie, dans la messe, d'une manière sacramentelle. D'une manière sacramentelle. Ça, c'est le grand mystère des sacrements. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites d'une manière sacramentelle? Qu'est-ce que ça veut dire la sacramentalité? Ça veut dire que c'est selon un mode symbolique, divin, et en même temps instrumentale et d'une manière efficace. Comme la parole de Dieu est efficace, le sacrement produit l'effet qu'il signifie. C'est ça la grandeur du sacrement. Donc la recréation se fait d'une manière ultime par la blessure du cœur de l'agneau. Car Dieu a ses mains liées sur la croix. Oui, j'essayais de vous faire comprendre ça tout à l'heure. À la différence de la première création, puisque c'était l'intention de cette session, il faut toujours au terme tout reprendre. Hein. Vous comprenez bien, je vous ai dit, on ne termine pas. On ouvre un chantier. Le terme de ce chantier sera la vision béatifique. À ce moment-là, on se reverra. Et puis, vous me direz, oui. Vous voyez ce que vous avez dit ? C'était à peu près ça. Pas tout à fait, mais à peu près. Ça allait dans ce sens-là. C'était un professeur dominicain au Sochoir, un professeur de dogme, et puis un professeur de morale. Il s'était dit, le premier qui passera de l'autre côté viendra dire à son frère ce que ça vaut la théologie. Qu'est-ce que ça vaut, comparativement à la vision béatifique? Alors, c'est le professeur de morale qui est mort, il fallait connaître le professeur de morale. Professeur de morale qui est un homme très très bien, très posé comme un professeur de morale, qui est mort le premier. Le professeur de dogme est resté un peu plus tard. Alors, au bout d'un certain temps qu'il était mort, je savais ce qu'il s'était dit. Je dis, alors, c'était le père Eris. Alors, père Eris, est-ce qu'il est venu? Alors, il m'a regardé. Oui, il est venu. Il a tenu parole. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il a dit, vous savez, pour le dogme, c'est à peu près comme ça. Mais pour la morale, c'est pas du tout comme ça. Ça, très bien. Surtout que c'est le professeur de dogme qui disait ça, vous comprenez? Mais c'est vrai. Je vous ai dit, un langage symbolique. Un langage analogique. On gratte la terre pour essayer de trouver la source. On s'approche. Et plus le théologien est théologien, plus il sait que ses conclusions théologiques sont tout entières tournées vers la parole de Dieu. Si je fais de la théologie, c'est pour mieux comprendre la parole de Dieu. C'est pouvoir l'interpréter d'une façon plus mystique, plus divine, en toute liberté. Liberté par rapport à une docilité plénière à l'Esprit Saint et à l'Église. Mais c'est pour ça, on fait de la théologie pour lire la parole de Dieu. On revient toujours à la parole de Dieu. La conclusion théologique est beaucoup moins importante que la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ça vient directement de Dieu. C'est Dieu qui parle. Et donc, c'est toujours impressionnant. Et qui parle d'une façon voilée. Ce qui s'adapte à notre mentalité et à ce que nous sommes. On ne peut pas voir Dieu. Nul homme ne peut voir Dieu sans mourir. Et dans la foi, nous adhérons à la parole de Dieu pour adhérer au mystère qui est au-dessus. Alors, nous avons commencé par le problème de la création. Et j'ai exprès beaucoup insisté. Et vous comprenez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, des quantités de théologiens ne veulent plus parler de la création. ne veulent plus parler d'agression, moi j'en parle plus. Parce que on risque de ne plus entendre parler de la création. Or, c'est absolument capital pour comprendre ce qu'est l'attitude religieuse et ce que représente l'adoration. Et nous sommes revenus à la lecture des premiers livres de la Genèse, les 11 premiers chapitres de la Genèse, qui sont préhistoriques et qui ont une valeur métaphysique, actuelle, extraordinaire. Les 11 premiers chapitres, avant Abraham qui commence l'histoire. Et c'est vrai que quand on regarde la création, on voit les deux récits. Premier récit, la parole. Deuxième récit, les gestes. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Premier récit, qui de fait est plus élaboré, le récit éloïste, et le récit yaviste, qui est plus ancien, plus primitif, moi que j'aime beaucoup plus, on peut avoir des goûts différents, j'aime énormément le deuxième récit, parce qu'il est d'une beauté, d'une grandeur extraordinaire. Le geste de Dieu qui est potier. Le geste de Dieu chirurgien. Formant le corps de l'homme, formant le corps de la femme. Donc, les deux gestes. Et je vous avais dit, la parole nous met en face de la sagesse de Dieu transcendante. Et les gestes nous montrent la bonté de Dieu. L'immanence, la présence de Dieu. Les 11 premiers chapitres nous montrent la dialectique de la faute. Parce qu'il y a une dialectique de la faute. La dialectique, je dirais presque, de l'orgueil. L'orgueil est source de la dialectique. Et c'est ça qui est si impressionnant dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, qui nous donne quelque chose d'unique. Et évidemment, il faut savoir les lire. Mais c'est très grand. Parce que c'est préhistorique. Alors, ceux qui aiment le préhistorique, ceux qui aiment justement quelque chose de tout à fait primitif, alors on aime beaucoup ça aujourd'hui. On aime bien regarder les 11 premiers chapitres. Donc, Genèse 1 à 12. 12 étant exclu. Donc, de 1 à 11. Et alors, Abraham, c'est Dieu qui recommence, c'est l'histoire qui commence l'alliance avec Abraham. Nous avions vu toutes ces alliances très rapidement, jusqu'au mystère de Marie et de Jésus. Et Jésus, sagesse de la croix. Ici, recréation. Bien, c'est la recréation, la reprise de tout. C'est ce que nous allons voir dans quelques minutes. La recréation. Et alors, ce qui m'impressionne, il y a la parole et les gestes. Et vous voyez, premièrement la parole, deuxièmement les gestes. Qu'est-ce qui se passe dans l'ultime moment de la révélation, l'évangile de Saint Jean, la dernière semaine? Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les paroles du Christ dans Saint Jean, les trois dernières paroles. Les trois dernières paroles. Vous voyez bien, femme, Voilà ton fils. Voilà ta mère. J'ai soif. Je remets mon esprit entre tes mains. Tout est consommé. Trois dernières paroles. Puis le geste. Vous retrouvez paroles et gestes, mais dans un ordre inverse. C'est-à-dire le geste est dernier. Pourquoi ? Parce que justement, le geste exprime plus l'amour que la parole. Et tout le mystère de la recréation, c'est un mystère d'amour. C'est le mystère de la croix. Bon, alors je voulais vous faire comprendre la signification de ce geste. Un geste où Jésus est passif. Il est mort. Ce geste blesse le cœur. Dernière goutte d'eau et de sang. Donc, c'est le geste, j'allais dire, qui n'exprime pas les initiatives, mais qui exprime la passivité, la réceptivité absolu qui soit, c'est l'accueil, la blessure du cœur. Un accueil qui attire. Jésus, par la blessure du cœur, attire tout à lui. Quand je serai attaché sur le bois, j'attirerai tout à moi. Et c'est la blessure du cœur qui est la grande attraction. Et alors je m'étais. Cette distinction entre les deux, ces deux gestes qui montrent les initiatives du Père, le potier et le point de vue du chirurgien, et au contraire le geste de passivité absolue à l'égard du cœur. La main, le geste du potier, c'est le bras et la main. Ça exprime la toute-puissance de Dieu. Une toute-puissance tout entière tournée vers l'amour. Ça, c'est sûr. Ce qui est très extraordinaire à la croix, c'est que la toute-puissance est comme voilée. Puisque les bras du Christ, les mains du Christ sont attachés au bois. Jésus ne peut faire aucun geste. L'unique geste, c'est l'ouverture du cœur, la blessure du cœur, où il pâtit et où il appelle. Les dernières gouttes d'eau et de sang, c'est l'appel. Je crois que le geste de la blessure du cœur correspond à la parole « j'ai soif ». Le « j'ai soif » de la parole se traduit dans le geste. Vous voyez, parce que la remise entre les mains du Père, ce n'est pas pour nous. Ce qui est pour nous, c'est le cri de soif et la blessure du cœur. C'est pour ça qu'il y a une correspondance entre les deux. Et alors vous retrouvez que la lumière soit et les deux gestes. La dernière parole, j'ai soif, et la blessure du cœur. Vous voyez donc que la recréation qui se fait par la croix, c'est une recréation dans l'amour. Puissance de Dieu se tait. Elle est présente, c'est évident, mais elle se tait. C'est une recréation dans l'amour et dans la miséricorde. Et alors, vous auriez un signe très extraordinaire pour bien comprendre cela. Le mystère de l'Eucharistie. Le pain et le vin. C'est un symbole. Deux grands symboles. Dans l'Eucharistie, la toute-puissance de Dieu qui est présente dans le mystère de la transsubstantiation, la toute-puissance de Dieu qui réalise le mystère de l'Eucharistie nous montre comment Jésus se donne dans, j'allais dire, la plus grande dépendance, le serviteur par excellence, c'est le pain. C'est l'aliment. L'aliment est totalement au service du vivant. Il est pour le vivant. Et Jésus se donne sous la forme du pain. C'est un langage divin pour qu'on comprenne la manière dont il se donne. Il se donne à nous totalement, mais sous la forme du pain. C'est-à-dire dans la plus grande dépendance qui soit. Et saint Augustin a très bien compris ça. Il ajoute tout de suite, quand tu reçois l'Eucharistie, ne pense pas que c'est toi qui vais transformer le Christ en toi-même. Comme lorsque nous mangeons du pain, nous l'assimilons à nous-mêmes et nous le transformons en nous. Mais c'est le Christ qui va te transformer. Vous voyez, saint Augustin est obligé de dire ça. Tellement le langage symbolique de Dieu est fort. Il se donne comme pain. Et il faut bien comprendre que l'explication de saint Augustin, c'est pour que nous comprenions mieux. Il se donne comme pain, sous les apparences du pain. Or, se donner sous les apparences du pain, c'est se donner dans la plus grande humilité. Le service substantiel de l'aliment. Et c'est vrai, un service substantiel. Vous avez des serviteurs différents, mais très bons serviteurs, c'est les amis. Il faut tout leur demander. Et l'ami reste un ami. Une personne qui a son autonomie. Vous vous servez aussi de vêtements. C'est sûr. Et vous commencez, quand vous commencez à manger votre vêtement, c'est un mauvais signe. Ça vaut que ça ne va pas. Tout de suite, toi, il est malade. Il mange ses habits. C'est un signe de décrépitude. Tandis que quand vous mangez le pain, ça va très bien. Surtout du bon pain. Du vrai pain, quoi. Le pain, c'est le serviteur par excellence. Puisqu'il se donne substantiellement, il ne garde rien pour lui. Tandis que le vêtement, il garde quelque chose pour lui. Vous l'usez, mais vous ne le mangez pas. Et c'est un service absolument unique et individuel. Parce que vous pouvez porter le vêtement du voisin. Si le voisin est consentant. Dans les familles nombreuses, les vêtements, ça circule. On voit bien. C'est normal. Et dans les familles nombreuses religieuses aussi, c'est comme ça. Ça circule. C'est la taille qui compte. Le vêtement, donc, on ne l'use pas jusqu'au bout. Quand on dit qu'on l'use jusqu'à la corde, c'est très bien. L'aliment, on l'use d'une manière telle il ne reste rien. C'est extraordinaire que Dieu ait pris ce langage. Il faut quand même essayer de comprendre. Hein. Dieu a pris ce langage. Et c'est son testament. Donc, c'est sa dernière parole. C'est sa dernière volonté. Il se donne comme pain. Il veut ne plus faire qu'un avec nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il veut faire plus qu'un avec nous. Un, substantiellement. Complètement transformé. Que nous soyons transformés en lui. Et voyez combien Dieu, le Tout-Puissant, se désarme dans le mystère de l'Eucharistie. Il y avait Dieu désarmé dans l'Ancienne Alliance. Je suis le pain, le véritable pain. C'est Dieu, Yahvé, qui se désarme complètement. Pour n'être plus qu'amour. Pour être pur don. Pour être substantiellement donné. Je crois que c'est là, vous voyez, où le mystère de l'Eucharistie nous aide à comprendre cette sagesse de la croix. Pour nous. Nous en avons besoin. L'Eucharistie dépend de la croix, mais c'est un symbole divin qui nous aide à comprendre la croix. Alors, il faut comprendre que ce mystère de la recréation se fait à la croix et pour nous continue de se faire à chaque instant par le mystère de l'Eucharistie. Et c'est pour ça que tous les jours, dans la communion sacramentelle ou dans la communion par le désir, il ne faut jamais l'oublier. Saint Thomas dit que quelqu'un qui ne peut pas communier sacramentellement, c'est vrai, beaucoup de gens qui travaillent ne peuvent pas le faire. Ceux qui ne peuvent pas le faire, la communion de désir, produit les mêmes effets. Mais ça, on ne le dit pas assez. On ne comprend pas assez que notre vie chrétienne est une vie selon l'esprit. Les sacrements, on s'en sert pour vivre spirituellement. Parce que notre sainteté, c'est d'être avec Jésus. Et alors, comprenons que le sacrement de l'Eucharistie, dont on doit vivre sacramentellement quand on le peut, et spirituellement quand on ne peut pas le recevoir sacramentellement, le sacrement de l'Eucharistie nous met à la source de notre recréation. On est lié à la croix, on est lié à l'Eucharistie, quand on est sur la terre. Puisque l'Eucharistie est source de vie. Et source de cette recréation. Un petit point que je précise tout de suite parce qu'on me l'a demandé quand je suis entré. Je disais tout à l'heure, pour essayer de comprendre la grandeur de cette sagesse divine, que dans sa sagesse, Dieu se sert de toutes les conséquences du péché, les tristesses, les souffrances, les douleurs, pour faire surabonder la communication de son amour, le don de son amour. Et nous avons de cela quelques petits signes. Au point de vue humain, quelqu'un qui n'a jamais souffert dans sa vie a beaucoup de peine d'aimer vraiment, c'est-à-dire d'aimer en se dépassant. Parce que Dès que vous aimez, vous vous oubliez. Et vous aimez celui. Vous êtes tout entier tourné vers celui que vous aimez. C'est pour ça qu'on dit que l'amour est extatique. Et c'est grâce à la souffrance qu'on arrive à cela. Quelqu'un qui n'a jamais souffert, remarquez que c'est très rare, hein, mais ça existe quand même. Il y a des gens qui sont très préservés de souffrance. Ils ont beaucoup de peine à comprendre le dépassement de l'amour. C'est pour ça que Dieu se sert de la souffrance, de la croix, pour nous communiquer l'amour. Notre amour surnaturel, qui vient du Christ, qui vient du Père, passe par la souffrance de la croix. J'allais dire que l'amour divin qui nous est donné, il a une teinte, une modalité qui est liée à la souffrance. Nous sommes nés à la croix. La croix glorieuse, hein, tout de suite, la croix liée à la gloire. Mais tant qu'on est sur la terre, c'est quand même la croix. Et pour notre raison humaine, et pour notre sensibilité humaine, c'est folie et scandale. Sentir la folie et le scandale de la croix n'est pas pécamineux. C'est quelquefois bon d'être scandalisé. Les gens qui ne sont jamais scandalisés, il leur manque quelque chose. Oui, oui, on peut leur marcher sur les pieds. Il faut tout excuser. Mais non, il ne faut pas tout excuser, pas du tout. C'est une bonne blague de dire ça. Il y a le scandale, on peut être scandalisé devant le mal, devant l'injustice. On est scandalisé. C'est le lendemain du scandale. Le scandale peut conduire à la révolte. Le scandale peut conduire à un dépassement dans l'amour. Quand le scandale du mal et de la croix permet ce dépassement, alors c'est très beau. On rejoint le cœur de Jésus. On rejoint la paix qui nous est donnée dans la croix. Et on disait très bien pour la souffrance, mais la mort. Comment l'amour peut-il se servir de la mort? De fait, c'est ce qui s'est passé à la croix. Sagesse divine demande à son fils de souffrir d'une manière telle que ça aille jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Donc la brisure du chef-d'œuvre de Dieu. Le chef-d'œuvre de Dieu, c'est cette unité prodigieuse qui existe en Jésus, entre son âme spirituelle et son corps, subsistant dans le Verbe de Dieu, et recevant du Verbe de Dieu cette plénitude d'amour. Tout ça dans une unité, une harmonie parfaite. La mort, Jésus n'aurait pas dû mourir, puisqu'il est fils de Dieu, puisqu'il est innocent. La mort est violente pour le Christ, mais plus violente que pour n'importe qui d'autre. Comment l'amour peut-il se servir de la mort? C'est-à-dire cette brisure, cette séparation de l'âme spirituelle à l'égard du corps. C'est que justement, l'amour divin, il est dit seul l'amour divin, l'amour humain ne peut pas servir de la mort pour purifier son amour. Vous savez, les personnes qui vous disent « Je vous aime tellement que je vais me suicider pour vous montrer que je vous aime. » Voilà, par imaginative, parce que c'est pas vrai du tout. arrive sur dit « Je suis obligé de vous quitter momentanément. Ah, c'est impossible, je me suiciderai. Pour vous montrer que je ne peux pas séparer de vous. Et donc, que je vous aime jusque-là. » Et humainement parlant, c'est très bien, c'est très fou. Hein. Bon, on a envie de dire « mais non, si vous mourrez, je ne vous retrouverai pas. Si vous attendez, je vous retrouverai. » C'est purement négatif, la mort. Humainement parlant, c'est purement négatif. C'est pour ça que la mort vous fait toujours peur. Parce que vous n'avez pas l'expérience de la mort. Moi non plus. Mais si on pouvait, au terme d'une petite session comme celle-ci, faire l'expérience de la mort, en disant, ne vous inquiétez pas, hein, vous ressusciterez demain. Mais ce soir, expérience de la mort. Vous l'aurez fait l'expérience, après ça ira. Si on pouvait faire ça, on n'aurait plus peur. On n'a pas fait l'expérience de la mort. On fait l'expérience de la mort toujours par la médiation d'un ami. C'est vrai, parce qu'il meurt tellement de monde par jour que ça ne vous effraie pas beaucoup. Tandis que la mort d'un ami, ah, ça on le sent passer. La mort d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, d'un ami. Au plan divin, l'amour étant substantiel, peut se servir de la mort comme signe de l'absolu de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Donc d'accepter la mort pour celui qu'on aime, pour le sauver. Et en signe qu'on l'aime plus que sa propre vie. Jésus, en acceptant la mort, nous montre la qualité d'amour qu'il a pour nous. Il nous aime plus que sa vie temporelle. C'est pour ça qu'il accepte cette brisure. Pour nous donner la vie divine. La mort, c'est le seul absolu sensible, visible. C'est le seul absolu visible et sensible. C'est pour ça que les premiers existentialistes, disciples de Sartre, se sont suicidés. Pas Sartre. Et les disciples. Très significatif. Puisqu'on a représenté la mort comme la grande expérience. La seule expérience substantielle. Absolue. Vous ne pouvez pas la répéter. Vous ne pouvez pas la reprendre. Toutes les autres expériences, vous pouvez la reprendre. Même les examens, ça se reprend. Donc c'est pas terrible. Puisque ça se reprend. Tout ce qui peut se reprendre n'est jamais terrible. On le relativise. Tandis que la mort est une expérience que vous ne pouvez pas reprendre. La mort s'impose à vous comme un absolu. C'est le seul absolu sensible, tangible. On est électrocuté. Ça, tout de suite. Mais la vie divine, l'amour divin, qui est substantiel et éternel, lui peut se servir de la mort comme d'un signe pour montrer combien l'amour divin surpasse tout cela, dépasse tout ça, c'est d'un autre ordre. Il peut se servir de la mort pour se donner plus. Alors je vais terminer, puisque nous sommes au terme de l'année mariale. Vous voyez bien, il y a une grosse lacune, très grosse. La recréation, où est-ce qu'on la voit? En Marie. En nous, à moitié. ne sommes pas totalement recréés. La preuve, c'est que les conséquences du péché originel demeurent. Et donc, on a encore pas mal de boue qui s'attache à nos bottes, à notre vêtement et à nos cheveux. Ça, encore pas mal de boue. Les cheveux, vous voyez bien, l'orgueil, la grosse vanité et la boue des pieds, concupiscence de la chair. Il n'y en a qu'une qui nous fait comprendre ce que c'est que la recréation, Marie. Alors le mystère de Marie nous montre la recréation réalisée à la croix. Elle est le fruit par excellence de la croix. Le fruit propre de la croix. Elle est fille de la croix. Au sens très très fort. Elle est l'enfant de la croix. Elle est celle qui a tout reçu du Christ crucifié. Tout. Absolument tout. Tandis qu'en nous, on ne peut pas dire que nous avons tout reçu du Christ crucifié. La trace d'Adam demeure. Et nous sommes encore liés à Adam par les conséquences du péché originel. Même si nous avons été baptisés. En Marie, il y a une reprise totale, absolue de tout. Extraordinaire. C'est le propre du mystère de l'Immaculée Conception. Et c'est dans le mystère de l'Immaculée Conception que vous voyez le fruit plénier du mystère de la croix. Donc du mystère de la rédemption. Marie vit plus du mystère de la rédemption que chacun d'entre nous. Le vécu du mystère de la rédemption est pleinement vécu en Marie. C'est très important de se rappeler ça. Je vous rappelle ici une petite anecdote qui m'avait beaucoup frappé. En Suisse, à Lausanne. J'aimais beaucoup le professeur de philosophie. Quand je suis arrivé, ça date, hein, puisque je suis parti en Suisse en 1945 pour enseigner à l'université de Fribourg. Très vite, j'ai pris contact avec le professeur de Lausanne, un collègue qui enseignait la philosophie à Lausanne, qui était merveilleux. Réformé, qui avait épousé une Barthienne, une femme très intelligente, disciple de Barthes. Donc dure, très dure. Quand j'allais chez eux, c'était très significatif pour ceux qui connaissent un tout petit peu. Lui me disait toujours mon père et elle me disait toujours monsieur. Très très net, on est habitué, on sent tout de suite le climat. Mais très très gentille, merveilleuse, intelligente. Toujours au café, qu'arrivaient les bonnes questions. Alors un jour, je me rappelle encore, c'était café. Alors elle me regarde, se place devant moi, ayant rempli ma tasse. Mais m'empêchant de la boire, parce qu'elle me regardait. Et me disant, monsieur, vous qui êtes philosophe, qui avez le sens de la vérité, et la recherche de la vérité, comment pouvez-vous accepter le mystère de l'Immaculée Conception? Puisque c'est contraire à ce que saint Paul nous dit, sommes tous nés dans le péché. Et que le mystère de l'Immaculée Conception diminue le mystère de la rédemption. Puisqu'elle est en dehors du mystère de la rédemption. Elle me disait ça avec conviction et force. C'est agréable d'avoir quelqu'un comme ça. pas mou. Alors, puisque c'est elle qui attaquait la première, je pouvais essayer de répondre. Je dis bien, c'est tout à fait l'inverse de ce que vous pensez. Je vous défie d'aller jusqu'au bout du mystère de la rédemption si vous refusez le mystère de l'Immaculée Conception. Vous voyez, je l'ai piqué au vif, ce qu'il faut toujours faire. Je vous défie. Ah ben, tu veux quand même, non? Toute la tradition est comme ça. Oh, toute la tradition, non. Une tradition. Mais il y a d'autres traditions. Je vais vous expliquer. L'Immaculée Conception, c'est en vertu de la croix que Marie est immaculée. Ce n'est pas du tout le retour au paradis terrestre, ce que vous croyez. C'est en vertu de la croix. Et donc, elle est plus sauvée que vous. Et plus profondément sauvée que vous. Elle est radicalement. Et donc, c'est dans le mystère de l'Immaculée Conception que je découvre l'efficacité plénière du mystère de la rédemption. Puis j'ai développé, facile à développer, comment Marie, c'est le trophée par excellence du mystère de la croix. Et tout le mystère de l'Immaculée Conception montre ça. Vous voyez, c'est là où je découvre la recréation au sens plénier. Marie est reprise radicalement par Dieu en vertu des mérites de la croix. C'est ce que l'Église dit explicitement dans la bulle du dogme. C'est dit explicitement en vertu de la passion. Donc Marie est plus enveloppée du sang du Christ que tous les autres. Alors tous, on dit saint Paul, oui, tous. C'est évident. Et il peut y avoir des exceptions puisque ce n'est pas un droit. Le démon n'a aucun droit sur nous. Dieu a permis les conséquences du péché originel. Dieu a voulu la mort. Et le démon se sert de ses permissions et les considère comme un droit. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas accepter Marie. Parce que l'Immaculée Conception remet le démon en face d'une vérité insupportable pour lui. C'est qu'il n'a pas de droit sur les descendants d'Adam et Ève. Alors que dans son orgueil, il est persuadé d'avoir des droits. Vous savez bien, c'est le propre de l'orgueil, de transformer les permissions qu'on nous a données en droits. Ça se voit tout de suite. Et ça se voit constamment dans la vie religieuse. Un supérieur accorde à quelqu'un une permission. 8 jours après, le même religieux vient. Il dit, mon père m'avait accordé cette permission il y a 8 jours. Je vous la redemande maintenant, ça va de soi. Il dit, mais pas du tout. Il y a 8 jours, c'est pour telle ou telle raison que je vous l'accordais. Maintenant, non. On a transformé la permission en droit. Et le démon fait ça tout de suite. Parce qu'il est orgueilleux. Et dès qu'on transforme une permission en droit, et qu'on est en face de quelqu'un qui vous remet devant la réalité, c'est insupportable. Marie est insupportable pour le démon. Parce qu'elle lui montre qu'il n'a aucun droit sur la femme et sur les descendants d'Adam et Ève. Vous voyez, c'est très important pour nous, quand on regarde la recréation, de comprendre justement comment la recréation, c'est le chef-d'œuvre de la croix dans le mystère de l'Immaculée Conception. Et tous, un jour, nous serons immaculés quand nous verrons Dieu face à face, dans la vision béatifique. Marie nous devance, elle est notre mère. Et donc son privilège, c'est le nôtre. Autrement, Marie ne serait pas mère. Une mère donne tout ce qu'elle a. Un jour, nous serons tous immaculés lorsque nous verrons Dieu face à face. C'est dit dans l'Apocalypse. Ils seront tous immaculés. Ils sont tous immaculés. La purification par le sang de l'agneau. Ce sera non pas être conçu d'une manière immaculée, ce sera naître à la vie divine d'une manière immaculée. Voilà, il faut terminer le cours bref, comparativement au cours plus long, n'est-ce pas? Il reste quand même bref. Je termine en vous remerciant de votre attention, parce que c'est vrai, c'est très agréable de parler devant un auditoire attentif qui ne dort pas. Il y avait des exceptions, mais pardonnables, n'est-ce pas, que je connaissais, donc qui ne m'inquiétait pas beaucoup. C'est vrai. C'est dur. On n'a pas perdu de temps en 5 jours. On a vu un grand panorama très vaste de théologie et de philosophie. Alors, continuons de prier les uns pour les autres. Ça, je vous le demande, puisque pendant quelques jours, on a été ensemble. On se retrouvera dans la vision béatifique. Vous verrez, les cours seront différents. Je crois que les sessions ne sont pas tout à fait les mêmes. Petit changement, session. Mais on se retrouvera. Et pour saint Thomas, il y aura encore des explications théologiques. C'est peut-être vous qui les donnerez. Ce sera le plus saint. Pas le plus érudit. Le plus saint. Il dira, oui, vous avez dit ça, mais regardez bien. C'est bien plus beau. Et c'est vrai. C'est à raison.